Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Allez, on finit cette magnifique semaine européenne, du moins magnifique, il s'en est passé des choses. On a fait une émission exceptionnelle hier. On a fait des bons avant-matchs aussi, mercredi, mardi, donc c'était un régal. Vous pouvez tout réécouter en podcast, tout est disponible. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne Roten sans flamme. Mais restez avec nous pendant 2 heures, on va se régaler. Pourquoi ? Parce que comme tous les vendredis, on va retrouver nos correspondants. On a une équipe de fous sur le plateau encore, beaucoup d'expérience. Ouais, beaucoup de matchs joués, avec, à commencer par Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Beaucoup de matchs joués.
Bah, beaucoup de matchs regardés, surtout analysés. Ah,
moi aussi, foot amateur, t'as beaucoup donné.
On a joué ensemble.
Et bravo. Bravo. On est avec Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour les amis.
Ça va Jean-Mi ?
Bonjour Jean-Michel.
Bon. Oui, depuis mardi, tout va bien. Il y a eu de très bons résultats en Coupe d'Europe, donc tout va bien.
Tout va bien. Voilà. Bon, écoute, Jean-Mi, on n'est pas tout seul. Hein. On est avec Stevie Savidan. Salut Stevie.
Salut Jérôme, merci de me fracasser lors des autres émissions de RMC. Salut Jean-Michel, salut Benoît.
Salut Stevie.
Pas de soucis, t'inquiète pas, Jérôme. T'inquiète pas, je t'envoie bien des petits textos quand tu me fumes comme ça. Là,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Ouais, mais arrête, c'est
pas du tout.
Regarde le texto que je t'ai envoyé, tu vas comprendre, ça devait.
Mais on peut le faire aussi quand t'es là si tu veux, Steve.
Oui, mais ça je sais, mais tu sais, je préfère.
Franchement, on est très heureux de te retrouver.
Ah ouais.
On est très très heureux.
Surtout en fin de semaine.
Ah bah, vaut mieux. Vaut mieux. Après, on est tranquille 2 jours.
Vous êtes sûr que ça commence bien là le.
Oui, Jean-Michel, la patate.
Écoute, on y va parce qu'il y a la cour de Zerbi.
Exactement. C'est l'événement du soir. Roberto De Zerbi prend la parole actuellement. Conférence de presse d'avant-match demain. L'OM affronte le Paris FC. Il s'exprime, l'entraîneur italien, on l'entend. D'ici quelques secondes, on aura le débrief de la conférence de presse à 18h45 grâce à Florent Germain. À 19h, le multiplex. Est-ce que gagner la Ligue Europa, c'est un objectif réalisable pour l'Olympique lyonnais? Puis à 18h30, le procès de Luis Enrique qui relance la concurrence entre les gardiens du PSG. Mais tout de suite, gueule de bois pour les Marseillais.
Stankovic, la frappe et le but. Troisième but du club Bruges.
Allez, basta, je coupe, allez, hop.
C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe.
De Zerbi a été désigné comme le centre du projet. Je comprends pas ce que veut mettre en place De Zerbi parce que je ne retrouve pas cette précision du football d'aujourd'hui.
Ça passe devant tout le monde, la tête de tomber, le but. Le but est devant tous les tribunes. C'est une situation incroyable, c'est le gardien de Benfica qui marque. J'en ai marre, je me casse.
On a conçu une sorte de cataclysme.
On est très critique sur la façon de jouer de l'Olympique de Marseille, la façon de gérer de Roberto De Zerbi, la façon de certains joueurs de pas progresser ou d'être même en régression.
L'OM éliminé pour un dénouement complètement irréel.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Là, je crois qu'on va pas être champion.
Il s'en est passé des choses et donc on est déjà en veille de match pour l'Olympique de Marseille. Demain, Marseille 3e de Ligue 1 se déplace sur la pelouse du Paris FC. Défaite en Coupe d'Europe mercredi soir à Bruges, 3-0 qui a laissé énormément de traces. Les infos RMC Sport, c'était que De Zerbi était fragilisé hier. Les précisions aujourd'hui de Florent Germain et de Fabrice Hawkins. L'entraîneur italien a été très affecté par ce qui s'est passé mercredi en Ligue des Champions. Les dirigeants marseillais l'ont laissé prendre du recul. Ils avaient besoin de savoir si De Zerbi avait encore la force et l'envie de continuer. La direction de l'OM ne l'a pas lâché. Il est également très probable que Franck McCourt n'aurait jamais validé toutes les indemnités de licenciement que ça aurait coûté entre De Zerbi et ses adjoints. Donc c'est lui qui avait la décision entre les mains. Soit il démissionnait, soit il restait. Et on part plutôt sur cette deuxième solution. Il est actuellement en conférence de presse. On peut écouter quelques mots d'ailleurs de Roberto De Zerbi qui est en train de répondre à des questions.
C'est juste qu'on le fasse, voilà, et maintenant on fera tout pour repartir. Et encore une fois, je le répète, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, ce sont des choses entendues, dites justement. Mais moi, je suis encore là, je suis là devant vous aussi ce soir, donc on peut dire que c'est ça la vérité.
Alors, je précise qu'il vient de dire quelques secondes auparavant qu'il n'était pas au plus près de ses joueurs hier à l'entraînement parce qu'il regardait des vidéos du Paris FC. Donc, c'est la version de Roberto De Zerbi. Ah. C'est pour ça qu'il a loupé la séance d'après-match hier à Clairefontaine.
Il est plus fort que les Français. J'ai une question concernant le schéma que vous avez aligné en Belgique. Après le match de Liverpool, vous nous avez dit que vous avez eu une frustration du fait que les joueurs n'aient pas trop appliqué ce que vous vouliez et pas su s'adapter. Là, en Belgique, il y a eu voilà beaucoup de difficultés, notamment au milieu de terrain, pour contenir leur milieu à eux. Est-ce que vous avez eu aussi une frustration à ce niveau-là du fait que vos joueurs n'aient pas appliqué les consignes, ou par rapport à ce que vous nous disiez, vous regrettez peut-être d'avoir choisi cette animation-là?
Sì, una domanda per quanto riguarda il modulo, lo schema in Belgio, perché dopo il Liverpool ci aveva detto che era rimasta frustrata dal fatto che i giocatori magari non avessero applicato il gioco che volevano, non si erano adattati durante la partita, e quindi contro il Bruges abbiamo visto difficoltà.
Jérôme, Jean-Michel, Steve, il y en a qui parle italien o
no? No, e ti dimani di chi?
No, c'è Roland, l'embrasse, peux traduire si tu veux.
Vas-y.
Anche magari anche Attends, il l'inizio della partita, che noi sapevamo benissimo, che noi conoscevamo benissimo il Bruges, che parte sempre così forte.
Jérôme.
Ed è chiaro che se vai sotto di 2-0 poi
la
viene condizionata da questo. Col Bruges credo che abbiamo creato tante occasioni da gol, sia nel primo sia nel secondo, però nel secondo, se tu devi far gol e attacchi e lasci Medina con Forbes, c'è differenza di passo. Infatti è stato quello il motivo, mancando Emerson, di fare da pendolo con Weah. Qualche volta Weah si alzava e qualche volta Weah si abbassava.
Je crois qu'il y a un problème avec Weah.
Emerson a manqué. Emerson, donc Weah est passé.
Emerson a manqué. Balerdi a été mauvais.
Pourtant, il a le potentiel du meilleur défenseur du monde.
Kondogbia et Hojbjerg, je ne comprends pas. Ah, attention.
Alors moi, ce que je veux dire, c'est le début du match surtout, parce qu'on connaît et on connaissait Bruges, on sait qu'ils commencent toujours très fort les matchs, donc voilà, d'être mené d'entrée 2-0, ça a forcément conditionné le match. Après, je pense qu'on s'est quand même créé beaucoup d'occasions, tant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que si tu dois marquer et que tu attaques, voilà, si tu laisses Medina derrière avec Forbes, forcément il y a une différence aussi de rythme. Donc c'est là aussi qu'Emerson nous a manqué dans ce rapport aussi avec Weah, parce que Weah parfois devait monter, il devait descendre aussi. Sur le coup là, il y avait aussi un attaquant fort et rapide de l'autre côté en face, donc c'est surtout ça qui a manqué, pas forcément l'aspect tactique honnêtement.
18h07 sur RMC, la conférence de presse de Roberto De Zerbi avant le match face au Paris FC, la première depuis l'élimination en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille.
Coach, deux petites questions. La première, dans ces 24 heures très difficiles que vous avez traversées, est-ce que la pensée de quitter l'Olympique de Marseille vous a traversé l'esprit ou pas du tout? Et la deuxième question, est-ce que, vu les circonstances, vu la façon dont l'OM a été éliminé mercredi soir de la Ligue des Champions, est-ce que la seule façon de se faire pardonner, puisque vous avez utilisé le terme « se faire pardonner », est-ce que la seule façon de se faire pardonner, c'est désormais d'être sur le podium à la fin de la saison en Ligue 1 et de remporter la Coupe de France pour la première fois depuis 37 ans? Merci.
Sì, due domande. La prima è
voilà, la question donc sur les prochains objectifs. Est-ce qu'il a pensé à quitter l'OM après cette défaite et les prochains objectifs pour l'OM qui reste sur la fin de saison? Donc la Coupe de France sera mardi d'ailleurs, Jérôme, contre Rennes au Stade Vélodrome en 8e de finale, et la Ligue 1 terminée sur le podium. Objectif fixé par Mehdi Benatia d'ailleurs après le match à Bruges.
Penso che non bisogna farsi perdonare con i risultati, bisogna farsi perdonare con il tipo di prestazione, che poi i risultati spesso sono la conseguenza di come tu giochi, come tu approcci le partite, come tu lotti, come tu hai coraggio, come tu non molli durante le partite. Poi vedremo i risultati. Guardi, non è la questione non è se ho pensato di lasciare o non lasciare. Io Marsiglia.
Puoi tradurre, Jérôme?
L'ho cercata e l'ho voluta fortemente.
Il a dit que ces joueurs ne le méritaient pas. C'est pour ça qu'il s'est posé la question de partir.
Quando io
accetto. Qui lui manque Steve Savidan dans l'équipe.
En tout cas, de l'envie, ouais.
Dove sto, so le problematiche che potremmo avere, che avrei potuto avere. So tutto.
Allez, on écoute la traduction.
Il a dit ils ont laissé partir Royer à Nice, alors que moi je voulais absolument le garder et lui ne, nous a manqué.
C'est, ce sont des blagues, hein, Jérôme.
Poi c'è la parte della responsabilità. E la parte della responsabilità vuol dire che se una squadra.
Un capitaine come Jean-Michel Larquet, j'en ai pas.
Jean-Michel parle pas italien, je suis très déçu.
Perché. Col Nantes facciamo quella partita, poi col Paris Saint-Germain meritiamo di vincere.
Je suis plugué par son discours.
Le détail des matchs, des prestations.
Ah, il nous reparle du match du Paris Saint-Germain avec ce trophée en bois.
Et de Nantes.
Con Lens facciamo una partita straordinaria e a Bruges cadiamo così. A me hanno insegnato.
C'è un accident, mais ça sera mieux la prochaine
fois.
La responsabilità vuol dire mettere la faccia anche se fa male, anche se non credo di avere tutta la responsabilità.
Dire tu, hai bisogno di dire tu.
In parte ce l'ho la responsabilità. E lo dico a voi,
Rongier, Rabiot,
al club, a chi mi paga.
E je viendrai m'expliquer dans Rotten sans flamme la semaine prochaine.
Oui. Ça, on y croit.
Che è stata una partita brutta. Tutto qua.
Qu'est-ce qui était plus forte?
Ho detto prima della partita.
Congratulations, Roberto.
Questo è il posto ideale.
Non so se io sono l'allenatore ideale per il Marsiglia, ma so che il Marsiglia è il posto ideale per me. Ma so anche che l'allenatore deve portare risultati e prestazioni. Io credo che qualche risultato l'abbiamo.
Rappelle qu'il est 18h11, vous êtes sur RMC, Rotten sans flamme, Jean-Michel Larquet, c'est évident, Jérôme Rotten. Vous aurez la traduction de cette réponse de Roberto De Zerbi qui est en conférence de presse et après on débattra.
Ah, franchement, Jean-Michel et Steve, vous faites une super émission.
Ah ouais, la question est votre meilleure. Juste Jérôme, je rappelle la question, est-ce qu'il a pensé à partir après Bruges?
Ouais.
Et
alors, honnêtement, je pense que on se fait pas pardonner par les résultats, mais par les prestations plutôt. Les résultats, c'est vrai que ça peut être la conséquence du jeu, de la lutte, du courage qu'on met dans un match, du fait de rien lâcher jusqu'au bout. Mais voilà, les résultats, on verra honnêtement. Après, pour répondre à votre autre question, c'est pas une question de savoir si j'ai pensé à quitter ou pas le club. Moi, j'ai voulu fortement venir à Marseille. C'est ma deuxième saison ici. Et quand j'ai accepté de continuer pour une deuxième saison, je connaissais les problèmes qui pouvaient arriver, qu'on pouvait rencontrer. Voilà, je savais tout. Mais quand je dis vraiment que je voulais fortement venir ici et que j'y tiens, c'est la vérité et les gens qui m'entourent le savent. Après, il y a aussi la part de responsabilité et quand on a une équipe qui a autant de hauts et de bas, forcément, il y a une part de responsabilité. On peut pas faire le match, on le sait bien, contre Nantes. Après, contre le PSG, on aurait mérité de gagner. Liverpool, on a mal joué. En milieu, il y avait eu Angers où on a fait 40 minutes spectaculaires. Lens, un match extraordinaire. Et dernière, on chute à Bruges. Donc voilà, c'est quelque chose où moi, on m'a appris à prendre ma part de responsabilité. Ouais. Ça veut dire assumer aussi les choses, être là, voilà, clairement devant vous. Même si je ne pense pas avoir toute la responsabilité non plus, mais c'est évident que l'entraîneur a une part de responsabilité. Et après, voilà, je le dis à vous, au club, aux personnes qui sont au-dessus de moi, à Mehdi, au président Pablo Longoria.
Je crois qu'il y avait personne.
Et c'est vrai qu'on a fait un mauvais match. Voilà, c'est tout. Je l'avais dit avant le match. Moi, je pense que Marseille, c'est l'endroit idéal. Voilà, pour moi, je ne sais pas si moi, je suis l'entraîneur idéal pour l'OM, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est bon pour moi. Après, forcément, il y a les résultats, il y a la performance. Je pense que du point de vue des résultats, on a quand même obtenu de bonnes choses. Du point de vue de la performance, on a une équipe forte. C'est vrai qu'elle pourrait être encore étoffée, mais voilà, j'ai des joueurs forts. Mais le problème qui est important, c'est voilà ce manque de régularité, ce manque de constance.
La réponse donc de Roberto De Zerbi. On en reparlera à 18h45, le débrief complet de la conférence de presse avec Florent Germain qui suit tout ça et qui viendra tout nous dire. Mais on peut débattre, Jérôme, Steve et Jean-Michel, est-ce que l'OM se relèvera justement de cette claque reçue, cette désillusion en Coupe d'Europe, 32-16 d'ailleurs, supporter marseillais, si vous voulez participer avec nous. Jérôme.
Ce fiasco même, parce que quand tu regardes De Zerbi, alors bon, on est en radio, donc les gens n'ont pas le visage de De Zerbi, mais on le sent très affaibli. affecté dans tous les cas. Donc c'est pas étonnant toutes les infos qui sont sorties hier, à savoir parce que bon, l'excuse du j'avais le match des matchs du Paris FC à analyser. Ouais, excuse-moi, mais celle-là tu me la fais pas. Et puis après c'était non, il est resté au vestiaire, il sort jamais le lendemain des matchs. Et puis après, vu que c'est pas vrai, bah c'était il est malade. Donc en gros, bon, ils nous ont bien enrobé la chose. L'essentiel pour l'OM, j'imagine quand même, c'est que leur entraîneur soit présent demain contre le Paris FC, parce que les matchs s'enchaînent. Et après, quand je vois sa tête, en effet, c'est un fiasco. On l'a dit, c'est honteux. Il a honte parce que sa tête montre qu'il a honte. Après, c'est toujours pareil. Il te cherche des excuses. Moi, j'aime les gens qui assument leurs responsabilités. On n'a pas besoin de Zerbi pour nous dire que c'est pas le seul responsable. Non, mais arrête. Il dit c'est pas le seul responsable quand même. Il a dit. Voilà, bah écoute, prends. On s'en fout, c'est pas à toi de dire si c'est tes joueurs, ta direction ou quoi que ce soit. C'est toi qui fais les choix. T'es le seul responsable. Le dis et très clairement. Et après, Jean-Michel, je te donne la parole. Et après, l'autre chose, c'est, ça me fait rire quand il dit les gens au-dessus de moi, Mehdi et Pablo. Il y a trois jours, qu'est-ce qu'il disait ?
J'ai pas de patron.
Voilà. Bon, bah écoute, ça veut tout dire en fait.
Jean-Michel, vas-y.
Oh non, mais bon, d'abord, je crois qu'il fait encore cette conférence pour une seule raison. C'est parce que son départ coûterait trop cher. Il serait pas là.
Exactement.
Non, déjà. Il est présent là. Et puis quand il dit qu'il faisait la vidéo, je commence par ça. Et des choses qui m'énervent peut-être un peu plus que les autres. Et puis quand il parle de vidéo hier pour regarder le Paris Football Club, Monsieur De Zerbi est tellement débordé qu'il peut pas faire les deux choses. Non. Et regarder la vidéo à un moment donné et s'occuper de l'entraînement à un autre instant. Prendre les gens pour des. C'est. Je veux bien. Qu'il tape sur les journalistes, les consultants et le reste du monde. Mais dites-moi, il faut quand même les avoir bien accrochés pour dire des choses pareilles, quand même. Et puis moi, je reste focalisé sur le sport. Mais j'ai regardé la campagne européenne de De Zerbi. Mais De Zerbi, c'est un acteur de série B qui voudrait être James Bond dans tous les films de James Bond, mais qui n'en a pas les épaules. La série de, il a commencé par une défaite encourageante contre le Real, qui a quand même pas cassé trois pattes à un canard depuis le début de la saison.
Real qui est barragiste aussi d'ailleurs, enfin qui est barragiste contrairement à l'OM.
Il a remporté 3 victoires sur 9 matchs. Je vous passe les détails. Au Sporting, il s'est planté. Contre l'Atalanta à domicile, il s'est planté. Et ça me rappelait 93. Et l'équipe de France qui devait prendre un point sur les deux derniers matchs.
Ouais, c'est vrai.
Il en a pris 0. Et en guise de 0, il en a pris 2 autres. Il a pris une bonne branlée contre Liverpool. Il en a pris 3. Il en a marqué 0. Il est allé à Bruges où tout le monde devait gagner. Il en a pris 3. Et il en a marqué 0. Donc ça va, quoi. Je veux bien. Moi, à la place des supporters de Marseille, je serais quand même très inquiet. Parce que aujourd'hui, si gagner la Coupe de France, c'était indispensable. Je suis pas sûr. Quand il nous raconte que c'est Fiston, c'est Rongier, c'est Rabiot, c'est Mopé, ils ont tous été virés. Que Balerdi, c'est le meilleur défenseur du monde potentiellement. Et je sais pas ce qu'il veut dire par potentiellement. Qu'il fait 30 équipes, qu'il y a 30 matchs, qu'il fait 30 équipes différentes. Il a entraîné Brighton, le Shakhtar Donetsk, Sassuolo. Eh bien, il n'a pas été au Milan AC, au Real, au Barça et à Manchester City.
Et il veut y aller.
Et je répète, il est là pour une seule raison. C'est que
ils lui ont pas fait de chèque.
Et son armée mexicaine, puisqu'ils doivent être une quinzaine dans le staff, et quand je dis 15, je suis peut-être modeste, ça coûte trop cher pour les virer.
Neuf adjoints, exactement. Jean-Michel, je veux juste préciser, la première réponse, on l'a pas entendue, donc elle est beaucoup plus claire d'ailleurs, et vous allez comprendre l'état d'esprit de Roberto De Zerbi. Je suis encore là, Pablo, Mehdi et moi avons parlé hier soir pour trouver la meilleure solution possible. Pour comprendre, je n'étais pas à l'entraînement hier parce que j'avais peu dormi et je ne me sentais pas bien. Cette défaite et cette élimination, c'est en partie de ma faute. Maintenant, il faut repartir. Voilà la première déclaration.
Alors, il n'a pas parlé. Il n'était pas.
Après, il a dit qu'il regardait des vidéos du Paris FC.
Bon, j'ai pas dit une totale bêtise.
Est-ce que l'OM peut se relever d'une telle déroute, à ton avis, Steve?
Bah, ça va être compliqué parce que ça fait 6 mois quand même que c'est sur le fil du rasoir. Et franchement, faut quand même regarder les stats. Elle joue pour lui, en fait. C'est ça qui est le plus grand paradoxe, en fait. C'est qu'il y a des stats qui jouent pour lui.
Par le nombre de buts marqués, c'est tout. Hein.
Mais voilà, il y a quand même des stats. Par contre, et là, c'est là que Jean-Michel a mis le point d'exclamation, le point d'orgue sur tout. C'est 30 équipes, 30 matchs, différents tactiquement. Des attitudes, des énervements surtout, un manque de, je veux pas dire de cohérence, mais surtout un manque de stabilité dans cette équipe. Je veux pas dire dans ce club parce que c'est l'ADN de l'OM. Tout le monde a cru en début que De Zerbi allait être peut-être dans sa progression individuelle. Tu l'as dit, Jean-Michel, il arrivait de Brighton. Il avait peut-être une progression, un passage obligatoire par un grand d'Europe qui est Marseille. J'ai pas dit un grand d'Europe par ses trophées, mais un grand club d'Europe avec son public, son côté sanguin. Il l'a dit souvent en conférence de presse pendant ses 6 premiers mois. Ça lui correspond.
Ouais, bah, de toute façon, il a pas le choix, hein.
Non, mais c'est là où, en fait, où Jean-Michel a totalement raison.
Si il avait eu le choix avec d'autres clubs, il serait pas là.
Non, mais c'est là où Jean-Michel a totalement raison.
La campagne européenne est catastrophique.
Là, c'est ce que je veux dire, c'est que le costume, en fait, il est trop grand. Parce qu'en fait, l'OM n'a pas besoin d'un coach énervé, pas besoin d'un coach excité, excitant. C'est pas ça. L'OM a besoin d'un coach cohérent. Cohérent et intelligent.
Ouais, mais il est même pas excitant.
C'est ce que je te dis. C'est qu'il a besoin de quelque chose. Voilà, s'il est excitant, parce qu'il excite, tu sais, son
il
côté
pas
latin.
Ses joueurs, c'est ça le problème.
Oui, mais.
Parce que quand tu les vois endormis, comme ils ont été la plupart du temps.
C'est un naufrage, de toute façon, pour répondre à la question de Benoît.
Ouais, Jean-Michel.
Il n'y a que des faux fuyants dans les explications. C'est la faute à Troubine.
Oui.
La faute à Troubine. Le gardien de Benfica, qui est le Kostadinov de 2026. Et c'est pas la faute de Troubine. C'est la faute des joueurs. C'est la faute des Marseillais. Comment tu vas prendre 3 buts? Et je me rappelle, Jérôme, toi le Parisien, tu étais très optimiste. Tu disais que de toute façon, à Bruges, allez, on va gagner à Bruges. Et non seulement ils n'ont pas gagné, non seulement ils n'ont pas fait match nul, mais ils en ont pris 3 dans la musette. Tu te rends compte un petit peu de la progression de cette équipe depuis le début de la saison.
Tu vois, par contre, j'ai entendu beaucoup de gens depuis 24 heures qui quand même... disent non mais attendez, on aurait pu mettre les U19, la réserve, pour aller à Bruges. Non mais attendez les gars, attention, il y a un adversaire en face, c'est peut-être l'OM, mais un match, et là ça ramène tout le monde à la réalité. Un match, ça ne se joue pas d'avance, ça ne se joue pas en fonction de l'adversaire, et ça se joue surtout.
Steve, c'est pas que ça ramène tout le monde à la réalité, c'est que j'aurais aimé que, pour parler de Zerbi, parce que c'est lui qui est mis en cause et qui est pour moi le principal responsable, même si
les joueurs, il aurait pu très bien dire en conférence de presse. Mais ce que j'aime pas de la campagne européenne, je l'assume.
Oui, mais non, mais il le dira pas parce que en fait,
non, mais
quand
il aurait
tu
pu
vois,
dire ça, il aurait sorti grandi.
Non, mais tu vois la posture.
Je l'assume. Par contre, place à la Coupe de France et au championnat.
Le problème, c'est que De Zerbi, quand il est arrivé, Jean-Michel a donné son CV. Au fond, lui, il sait. Au fond, lui, il sait, mais vu qu'on l'a présenté comme
Le droit dans ta carrière de démarrer par des petits clubs.
Non.
Ouais, c'est pas parce que tu démarres par des petits clubs que tu dois être humble et te dire « c'est pas le problème. »
Non, mais je suis désolé. Mais l'humilité, la remise en question, c'est ce qui te fait grandir et c'est ce qui te fait progresser.
Oui.
Moi, ce que j'ai vu, et c'est ce que j'ai vu l'année dernière, tout au long de l'année, ça lui a donné raison. Parce que, de toute façon, sa posture... ses déclarations, les remises en question sur les joueurs, tu sais, quand il a puni Luis Enrique, quand il a puni Greenwood, tu sais, j'ai pas la mémoire courte quand même. Rappelle-toi ce qui s'est passé.
Ils avaient été remplaçants
le retiro là, quand enfin, les retiros à Rome parce que son club n'allait pas et puis ils y allaient pas. Bon, ok, d'accord, mais lui jamais de remise en question, toujours la posture. Moi, tout ce que je mets en place, c'est bien. Le problème, c'est qu'il est rattrapé aujourd'hui par ce manque d'humilité, ce manque de remise en question, et que quand il prend des claques, une première claque, une deuxième claque, une troisième claque, que il a tout mis sur la table,
c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Là, au bout d'un moment, stop. Ton vestiaire, déjà, tu vas le perdre. Et c'est ce qu'on a dit hier. Et que je continue à dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont à fond derrière lui comme c'était le cas l'année dernière. Ça, c'est la réalité parce que c'est tout ce qu'on a pu constater, nous, quand on était joueur, quand il y a un entraîneur comme ça qui se met en avant et qui rejette la faute sur les joueurs, sur un tel, sur le public, sur les dirigeants, on a un moment t'es rattrapé et tu le sais. Et puis après, quand je te parle de posture, hier, ce qui fait, parce que on l'a vécu aussi. Moi, j'ai vécu des entraîneurs qui
ne
venaient
pas à la séance.
Il y a des entraîneurs qui venaient même pas. Ouais. Moi, j'ai connu des entraîneurs qu'on prenait des claques, qui venaient même pas te dire bonjour le matin. Parce que t'étais un... Non mais t'imagines quand même. Ouais. Et ça, à force de faire ça, comme de Zerbi hier, à pas venir soi-disant parce que t'es malade, parce que... Mais qu'est-ce que tu penses? Et tu penses qu'il...
Jérôme, parlons de ce que l'on a connu. Le plus terrible, tu vois, je me mets à la place des joueurs, et certains joueurs, tu les perds comme ça dans la, au cours de la saison. Je vais prendre des exemples. Le plus terrible dans ce que fait, dans la façon dont il manage son équipe, c'est que on a parlé des changements incessants dans son équipe. C'est-à-dire que tu fais un bon match, le match d'après,
t'es pas sûr de jouer.
Donc, et on te vire sans explication, te dire voilà, je te mets au repos. Oui, mais si on te met au repos deux matchs sur trois, c'est plus du repos là.
C'est des
vacances. Et tu perds des joueurs. Je n'arrivais pas à m'expliquer. Peut-être que c'est la faute du joueur, honnêtement. Mais je trouvais que le dénommé Vermeulen n'était pas un mauvais joueur.
Ouais, on l'a départ, tous dit.
Il a disparu. Ouais. Il a disparu de la circulation.
Il pouvait partir sur ce mercato de janvier. Et juste, je voulais
lui, il a disparu. Il y en a d'autres. Et je t'annonce, en restant avec les mauvaises perfs de Marseille et ceux qui ont beaucoup joué, je pense au futur ballon d'or africain, Traoré, parce qu'apparemment, lui, c'est la trouvaille depuis qu'il est revenu. Il passe devant tout le monde, il joue en faisant des matchs. Quand même moyen. Et ben à l'arrivée, je vous le dis, le match du PFC, le petit Traoré, à mon avis, il va plus jouer et il va être écarté. Tu vas voir. Mais c'est comme ça en fait. Il va faire payer à un tel et un tel.
Moi, j'entends tout ce que vous dites. Vous êtes dur avec De Zerbi et ça peut se comprendre avec tout ce qui s'est passé. Il faut juste rappeler que Marseille est dans les clous de ses autres objectifs nationaux, donc la Coupe de France et le podium de Ligue 1, et qu'il a un effectif assez fourni pour aller réaliser une belle deuxième partie de saison.
Mais
dresser le tableau noir, je veux bien. Mais à un moment, il y a peut-être un peu d'espoir aussi.
Tu peux toujours avoir des espoirs, mais ça, c'est toujours pareil. On te remet dans la tête. Dans ces cas-là, on fait pas des émissions. Il y a des analyses tous les jours, Benoît. Ce que je veux dire, c'est que si vous tirez des plans sur la comète,
tout est noir, parce que
c'est un fiasco.
C'est un fiasco, bien sûr.
Que c'est un fiasco sur la Ligue des Champions, alors que t'as des équipes
de
Conférence League qui sont qualifiées, d'accord? Et je vais pas te dire les noms des équipes qui sont déjà qualifiées, qui ont fini devant Marseille, où toi, t'as fini à égalité avec Paphos, avec le même nombre, la même différence de buts.
Que ce soit une campagne ratée, on est tous d'accord, Jérôme.
En Ligue 1, arrêtez de me dire que ouais, quand même, ils sont troisième. Ils sont à 5 points de Lens. 5 points et à 7 points du PSG. D'accord? Je pensais au début de saison, en effet, on s'est tous fait attraper. L'objectif, c'était de finir plus près du Paris Saint-Germain et de jouer un petit. Mais franchement, t'es à 7 points. Mais t'es encore dans les objectifs? Écoute, il
est talonné quand même par Lyon qui en début de saison.
Et on en parlera d'ailleurs dans le multiplex à 19h.
Il est talonné par Lyon qui en début de saison était peut-être susceptible de partir en deuxième division.
Exactement. Et à mi-saison, Jean-Michel, t'as perdu 5 matchs sur 17 de championnat. Mais c'est vrai que le parcours est incroyable. C'est vrai.
Alors juste, parce qu'on reparle de l'OM à 18h45, on fera le bilan de cette conférence de presse qui est en cours pour Roberto De Zerbi, mais il y a une question très intéressante de Florent Germain. Justement, vous allez écouter ce passage, ça dure quelques secondes, et après on parlera du Paris Saint-Germain. Écoutez ça.
Ma double question, est-ce que vous assurez que vous restez jusqu'à la fin de saison? Et est-ce que l'une des raisons qui peut expliquer ces hauts et ces bas, c'est que il y a un message qui passe pas avec les joueurs? C'est juste une question, c'est pas une affirmation, merci.
Alors non, je pense qu'il y a rien à confirmer. J'étais l'entraîneur de l'OM, je le suis toujours. Voilà, c'est juste une analyse qu'on a fait en parlant, c'est tout, un peu comme on ferait n'importe où. Aujourd'hui, j'ai entraîné et préparé l'équipe et demain, je serai assis sur le banc. Et en ce qui concerne l'OM, c'est une grande équipe, selon moi, mais qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps, pas assez de temps. Voilà, donc c'est c'est une équipe qui a besoin de temps et de connaissances des joueurs pour pouvoir devenir grand.
Tous les propos, vous les avez sur rmcsport.fr et on fera un débrief à 18h45.
Non, mais c'est bien de nous dire la stabilité. Ah bah ouais, mais depuis, mais qui c'est qui a choisi d'être instable?
30 compositions d'équipes différentes en 30 matchs.
Franchement, mais lui et ses dirigeants et le directeur du football, parce qu'ils nous ont dit que c'était normal d'être aussi instable.
Dans un instant, on parle du Paris Saint-Germain.
Excuse.
Et on ouvre le procès de Luis Enrique qui relance la concurrence au poste de gardien de but. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Goutron, Jérôme Roten.
18h33, on est bien dans Roten sans flamme avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan, avec Benoît Goutron, avec Roberto De Zerbi qui a pas fini.
C'est la fin, c'est la dernière question de la conférence de presse. Vous aurez le détail, le déroulé, le résumé avec Flo Germain Incarnat.
Il en peut plus. Alors déjà qu'il a eu du mal d'entrer, mais alors là, il est au bout de sa vie.
Hein. Jérôme, à 19h, le multiplex, on va lancer la 20e journée de Ligue 1, mais tout de suite, donc, on parle du Paris Saint-Germain.
Ce soir.
Allez. RMC, Roten sans flamme.
Alors vous avez réglé ces problèmes de place?
Non, attends. Il me fait les consignes.
Attends,
tu vas pas me donner des leçons. Hein.
Bah, ces places sont pas à lui. Ouais, c'est pas ton larbin. Ouais. Il est pas là pour te cirer les pompes.
Oui. Il me fait les consignes. Attends. Ouais. Dans les consignes.
Je chie dessus, ouais.
Le procès de Roten sans flamme.
Ça me fait rire encore.
Bah oui. Attends, je vais pas pleurer, non?
Qu'est-ce qui t'avait bougé?
Bon, parlons donc de ce contre-pied de Luis Enrique mercredi soir en Ligue des Champions. Il a choisi de titulariser Matvei Safonov au poste de gardien de but. Il revenait tout juste de blessure après une fracture de la main. Souvenez-vous, il avait assuré l'intérim quand Chevalier s'était blessé face à Monaco à la cheville. Il avait été performant, notamment sur cette finale de coupe intercontinentale. C'était le héros de la séance de tir au but. Entre-temps, Chevalier a rejoué, il n'a pas forcément brillé. Et c'est donc le Russe qui a été aligné mercredi soir en Ligue des Champions. On relance la concurrence au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Donc ouvrons le procès de Luis Enrique sur ce sujet. Deux procureurs, Jérôme Roten, bonsoir.
Ciao, buonasera.
Ah bah tu vois que tu parles italien. Et Steve Savidan, bonsoir.
Oui, bonjour, Steve. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah non, toi, Jérôme, tu défends Luis Enrique, excusez-moi, j'ai confondu.
Bah, oui,
c'est Jean-Michel qui l'attaque.
Non, mais
Moi, c'est pour ça que je faisais la gueule, je ne veux pas être avec Steve.
Moi aussi.
Je ne veux pas être avec Steve, je comprends pas.
Surtout
pas
être. C'est les avocats, oui.
Le verdict est rendu par Mathéo, supporter parisien. Salut Mathéo.
Les gens du peuple contre l'élite, la tour d'ivoire.
Salut Mathéo. Je te rappelle les équipes. Les procureurs qui vont charger Luis Enrique sont Jean-Michel et Steve, et l'avocat, c'est Jérôme Roten. Vas-y, Jean-Michel, toi, t'es pas fan du turnover au poste de gardien de but?
Ah non, je suis pas fan. Je n'ai rien inventé. Je suis pas un grand spécialiste du poste. Je suis même pas un spécialiste du tout. Factuellement, je suis pas contre. Je suis pas contre le fait qu'il ait choisi le meilleur lors du dernier match. Il considère que c'est le meilleur, mais sur la durée, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au Paris Saint-Germain depuis 7-8 ans. Lorsque Navas est arrivé et qu'il était indiscutable, il y avait deux gardiens de but qui étaient des gardiens de but numéro 2. Il y avait un Rico et puis un autre, je ne me rappelle même plus qui c'était.
Hein. Boulka à l'époque.
Voilà. Et les choses se sont passées magnifiquement bien. D'ailleurs, Navas n'avait pas été bon. Il avait été très, très bon. Est arrivé Donnarumma et les problèmes ont commencé. Mais tout naturellement, ils ont commencé parce que... Alors, on s'imagine, on parle de Donnarumma. Mais Donnarumma, sur sa carrière, sur son passage au Paris Saint-Germain, il a donné satisfaction 6 mois, c'est-à-dire rien par rapport à son talent. Et il a toujours été mis en difficulté. Mmh. Et une fois que Donnarumma est parti, on recommence la même chose. Et j'ai peur, moi, que cette concurrence, non seulement elle ne valorise pas les deux, elle ne tire pas les deux gardiens vers le haut, mais j'ai peur qu'il en perde au moins un. Et j'ai l'impression qu'il est en train de perdre Chevalier, comme il a perdu d'autres joueurs. Est-ce que Colomouani était là du temps de
Luis Enrique, bien sûr. Bah oui.
Bon, ok, il a ce garçon s'est perdu. Et Kitike, il était là du temps de
non. Kitike est parti après. Bon, ouais. Et Kitike, c'était la période Messi, Neymar, Mbappé.
Moi, j'ai j'ai l'impression que la concurrence, oui, c'est bien, mais à tout craint, et chaque fois qu'il y a un match, peser le pour et le contre, et comme l'on disait tout à l'heure avec Jérôme, même quand tu as fait un bon match, est-ce que tu vas faire le match suivant ? C'est pas mettre les joueurs dans une bonne ambiance, dans un bon confort, et c'est encore pire pour les gardiens de but.
Steve, qu'est-ce que tu veux rajouter là ?
Bah, beaucoup plus court. Je vais prendre l'exemple, mais je vais aller beaucoup moins loin dans le temps. Donnarumma n'a jamais été aussi bon que quand il y a eu de la stabilité au PSG, quand tout simplement il a été élu numéro 1 et Safonov a été, je vais pas dire, mis au banc de la Coupe de France, mais simplement à cette compétition. Donnarumma, il a fait une saison et je pense qu'il a été un des acteurs vraiment majeurs de cette campagne de Ligue des Champions pour les emmener jusqu'à la victoire. Cette année, nouveau virage, ils prennent donc Safonov reste, il a quand même un beau bagage hein, ce gardien, il a une belle personnalité, il est pas mauvais techniquement, et il recrute Chevalier sur ce projet d'avenir, jeune gardien, équipe de France, les premières apparitions d'équipe de France, et puis badaboum, on voit un manque de charisme, un manque de grandeur, parfois de grands matchs, mais en tout cas une difficulté quand même à dominer, à diriger, à prendre le lead justement dans cette défense. Des erreurs techniques, mais ça peut arriver dans sa progression. Et puis, bah, à un moment donné, Luis Enrique, bah, il se pose la question, est-ce que c'est réellement le premier ? Est-ce que je vais pas lui mettre la concurrence ? Et c'est là, en fait, où je suis pas d'accord avec Luis Enrique. C'est que s'il est vraiment dans un projet d'avenir, il doit accepter, je dis bien accepter, les bourdes. Parce que les bourdes, les erreurs font partie de son apprentissage de jeune gardien qui va devenir un très grand gardien. Et en fait, je pense que dans la précipitation, il a pris peur, il a mis Safonov, il est pas vraiment chiant, Safonov, tu le mets pas, tu l'enlèves. Il y a eu cet épisode quand même un petit peu pendant la trêve de décembre, où il s'est blessé, Lucas Chevalier. Moi, honnêtement, je me suis dit, ça y est, il a perdu sa place. Safonov va arriver, il va le griller. Et il a une bonne étoile, Safonov, contre-performance, blessure, et il revient ces deux buts d'année. Mais là, je comprends pas Luis Enrique.
Bah justement.
Tu dois le confirmer, quoi.
Jérôme.
Si, c'est ton avenir. Donc voilà, moi, je trouve qu'honnêtement, ça manque de sérénité à ce poste-là. Il ne faut pas trop créer comme d'instabilité. Ce n'est juste que mon avis.
Jérôme, parle à la défense.
Écoute, la stabilité des gardiens de but, c'est sûr que c'est gage de réussite et on l'a vu avec Donnarumma et là je suis d'accord avec Jean-Michel et avec Steve. Après Donnarumma, pourquoi ça a été stable, c'est parce que ses performances étaient au niveau tout simplement et que quand il a enchaîné des bonnes performances, je pense si quand il a enchaîné des bonnes performances, il y a même pas eu la question de se poser à savoir est-ce que ça Safonov ou Donnarumma. Moi ce que je vois depuis le début de l'année et c'est pas critiquer Chevalier pour critiquer. Moi, je suis extrêmement déçu, en effet, de son adaptation, qui a du mal à se faire, parce que.
Non, mais là, on parle de la décision de prendre Chevalier.
Il y a beaucoup de manques et tout, mais tu vas comprendre, Jean-Michel. Il y a beaucoup de manques chez Chevalier et c'est pour ça que Safonov a eu sa chance. Après, je suis désolé. On parle de concurrence, pas concurrence. Safonov, il est dans le groupe, il est deuxième gardien au départ. D'accord? Comme le troisième gardien, Marine. Ok, donc ils savent, la hiérarchie c'est comme ça, elle a été très claire de toute façon, il a joué tous les matchs Chevalier depuis le début. Au d'un moment, il y a un ras-le-bol de l'entraîneur qui est là aussi pour essayer de tirer le max d'une équipe qui se recherche un peu, qui doit être un peu plus stable. Il y a eu beaucoup de blessures dans les joueurs de champ. En effet, il a lancé Safonov à la grande surprise. Général, tout le monde attendait Chevalier, Safonov a été mis là. Safonov est ultra performant. Le championnat du monde, du moins la Coupe intercontinentale, ils lui doivent à lui. D'accord? Les matchs d'avant, il avait été très rassurant aussi. Et tu le sais, Benoît, parce qu'on a été plein de fois au Parc des Princes. Ouais, ouais. Je trouve qu'il dégage de la sérénité à ses défenseurs, ce que Chevalier ne fait pas. Mmh. Ça ne veut pas dire que Chevalier ne le fera pas dans l'avenir. Ouais. Mais il va falloir qu'il passe vraiment plusieurs caps d'un coup.
Tu veux dire, il y a une logique de performance.
Et que Safonov, s'il avait pas malheureusement eu cette blessure, il aurait continué à jouer. Et c'est normal, de toute façon, le joueur, il donne satisfaction. Et là, on parlait de gestion, Jean-Michel. Mais c'est normal qu'il continue avec Safonov. Safonov lui a donné satisfaction, il lui a rendu service, ils ont gagné un trophée. Bah, écoute, il se blesse à la main, malheureusement pour lui. Le premier match où il peut rejouer, il joue. Franchement, vous l'avez trouvé performant.
Donc c'est à lui de jouer contre Strasbourg.
Moi, je l'ai trouvé. Bah oui.
Tu le laisserais.
Moi, je pense que pour l'instant, en effet, Chevalier l'a montré. Il n'est pas encore prêt. Mmh. Chevalier a repris sa place quand Safonov a joué. Et alors moi, je veux bien qu'on me rappelle les pénalties contre Marseille. Pas de problème. Mmh. D'accord. Mais c'est une séance de tir au but. Il n'y a pas de souci. Et Safonov a été performant aussi là-dessus. Mais dans le jeu contre Marseille. Le penalty obtenu par Greenwood, c'est une hésitation.
Il a fait un bon match avant cette erreur.
Oui, oui, il a fait un bon match. Bon. Mais il fait quand même une connerie sur le penalty. Et les matchs, là, on l'a vu, la double confrontation contre le Paris FC en championnat où le PSG gagne à l'arrache 2-1, alors qu'ils ne doivent pas gagner. Le but du PFC, regardez-le. Mmh. Et en Coupe de France, il a deux ballons à jouer. Allez. Ils prennent Filoche.
Mathéo.
Oh, écoute, moi, je pense que Chevalier, pour l'instant, oui, en effet, c'est une remise en question. Mais attention, Benoît, remise en question sur le terrain, remise aussi en question dans la vie de tous les jours. Et il sait que je sais. Voilà.
Bon. Mathéo, qui remporte ce procès? Désolé, on est très en retard. Tu donnes la victoire.
Il n'y a aucun problème, je fais très vite. Écoutez, d'abord, l'avocat que je suis regrette qu'il y ait un seul avocat contre deux procureurs. C'est pas commun. Ensuite, je dois dire que mon confrère Jérôme Rotten a marqué des points. Ah. Et je conclurai aussi en disant que l'accusation a eu quelques petites incohérences en m'expliquant que Donnarumma était excellent sans être mis en concurrence. Je lui rappellerai que Donnarumma était bon à partir du jour où Safonov a joué contre le Bayern et a justement mis un coup, un coup dans le dos de Donnarumma.
Ta plaidoirie, elle est mauvaise.
La réalité, c'est qu'au football, il y a de la concurrence et la concurrence, elle pèse. Voilà. En tout cas, je
vais rappeler
à l'avenir, mais je donne le point à Jérôme
Rotten. C'est clair, concis et carré. Bravo.
Et c'est vrai que les contradictions d'en face, c'est terrible.
Allez, dans un instant, le débrief de la conférence de presse de Roberto De Zerbi avec Florent Germain qui a assisté.
Merci,
va tout nous dire. Allez, à tout de suite sur
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Rotten sans flamme. Après 19h, on est de retour avec notre fameux multiplex, avec tous nos correspondants, avec les dernières infos. On va se régaler, là on va continuer de parler de l'Olympique de Marseille sur la conférence de presse de Roberto De Zerbi avec Flo Germain. On est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Ouais, Benoît, ça se passe bien, l'émission de qualité.
Allez, c'est donc notre ami marseillais qui est là devant Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Oui, bonjour Roberto, je me permets une petite question décalée qui n'est pas directement sur l'OM.
RMC, non ?
RMC, oui. Vous écoutez RMC, vous aimez bien ?
Non.
Non, ok, d'accord.
Allô Jérôme.
Excellent. Non. Florent Germain est avec nous. Salut Flo.
Et il répondait à la question, est-ce que vous écoutez RMC ? Il a dit non, j'écoute pas. Il dit pas qu'il aime pas RMC.
Exactement.
Après, on lui rapporte tout de RMC et là, il aime.
Enfin, il aime, ouais.
Pas tout le monde, mais il aime.
Alors Florent, on va faire les choses dans l'ordre. Tu as écouté l'intégralité de la conférence de presse. Tu as d'ailleurs posé la meilleure question. On te félicite. Voilà, on pourra réécouter sa réponse. Il y avait des infos à RMC Sport hier, deux jours après donc la claque reçue face à Bruges et l'élimination en Ligue des Champions. On disait que son avenir ne tenait qu'à un fil. Ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a eu des précisions aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un point sur tout ce qui s'est passé? Quelles sont les infos RMC Sport en ce vendredi à 18h49?
Écoute, déjà, on va quand même préciser qu'on a vu un Roberto De Zerbi, même à distance et en visioconférence, toujours très marqué. Hein. Je l'ai trouvé, j'ai l'impression qu'il n'a pas digéré. Il n'a pas du tout digéré ce qui s'est passé mercredi soir. Il a vécu 48 heures encore un peu mouvementées. Il était fatigué, donc c'était important qu'il prenne la parole. Si je résume un peu, je pense qu'on entendra aussi un petit son de sa part, ses déclarations sur son avenir. Il dit justement à ma question qu'il n'y a rien à confirmer. J'étais l'entraîneur de l'OM, je suis toujours l'entraîneur de l'OM. Il veut aussi rétablir ses relations avec les joueurs. Il reconnaît quand même qu'il y a une forme d'impuissance. Ce mot est fort, hein, parce qu'il dit, moi j'aurais la force de rester encore 5-6 ans à Marseille. J'ai cette passion, j'ai cette énergie. Peut-être pas en ce moment, mais il va se reprendre. Mais j'ai ce sentiment d'impuissance. Et en fait, le cœur du problème, il est là. Ça a été du coup abordé avec les dirigeants hier, hein, puisque jusqu'à tard le soir, ils ont parlé, donc Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Est-ce qu'il a vraiment mis son départ dans la balance? Écoutez, ça a forcément été évoqué. Ça a été évoqué avec les dirigeants, mais il n'a pas démissionné.
Pour lui.
Il n'a pas démissionné.
Il y en a peut-être qui ont pensé pour lui.
Il n'a pas démissionné. Et je peux vous garantir que, de toute façon, si l'OM avait eu en tête de se dire oui, bah, de toute façon, Roberto, faut prendre une décision. Ouais. Franck McCourt, porte à aucun moment n'aurait validé les indemnités liées à un licenciement de lui et de son staff. C'est trop coûteux.
Donc, en gros,
si De Zerbi ne décidait pas lui de démissionner, la question de son départ ne se posait plus trop. Mais là, on a un coach qui a repris quand même l'entraînement aujourd'hui et qui est sur le banc demain. C'est ce qu'il a dit. Puis après, je vous raconterai d'autres petites phrases qu'il a sorties.
Exactement. Parce qu'il y a des infos intéressantes à retenir. On va juste réécouter donc sa réponse sur une possible démission. Écoutez Roberto De Zerbi.
Ce n'est pas une question de savoir si j'ai pensé à quitter ou pas le club. Moi, j'ai voulu venir à Marseille, c'est ma deuxième saison ici. Et quand j'ai accepté de continuer pour une deuxième saison, je connaissais les problèmes qui pouvaient arriver. Mais quand je dis vraiment que je voulais fortement venir ici, c'est que j'y tiens. Après, il y a aussi la part des responsabilités. C'est quelque chose où moi, on m'a appris à prendre ma part de responsabilité. Ça veut dire assumer les choses, être là clairement devant vous, même si je ne pense pas avoir toute la responsabilité. Je l'avais dit avant le match, moi je pense que Marseille, c'est l'endroit idéal pour moi. Je ne sais pas si moi, je suis l'entraîneur idéal pour l'OM.
Non so se io sono l'allenatore ideale per il Marsiglia, ma so che il Marsiglia è il posto ideale per me.
Flo, c'est une des réponses qui a fait réagir Jérôme, Jean-Michel et Steve. Donc voilà, il prend une partie de la responsabilité. L'autre réaction qui a, qui a choqué un peu Jérôme, c'est quand il dit les joueurs ont besoin de stabilité. Et là, vu qu'il y a beaucoup de changements, c'est pas facile de s'installer. Là, c'est un peu se moquer du monde. Ou alors, est-ce que c'est une pique envers Mehdi Benatia avec ses changements incessants tous les 6 mois dans l'effectif? On imagine quand même qu'il a une responsabilité parce que c'est lui aussi qui réclame des joueurs et des renforts.
Oui, il a été relancé d'ailleurs sur ce constat. Lui dit que c'est un constat, que c'est factuel. L'un de nos confrères lui a demandé si c'était une critique de la stratégie qui est très claire de Marseille, c'est-à-dire chaque été ou chaque mercato. En gros, si on doit se séparer d'une dizaine de joueurs, on le fait. Donc c'est vrai que ça peut surprendre, mais c'est pas la première fois qu'il répète ça. Lui, il estime que son groupe est de qualité, mais avec un vécu commun trop léger quelque part, et qu'il n'arrive pas à ce que la mayonnaise prenne suffisamment pour qu'il y ait cette régularité. En fait, c'est ce qui le ronge, Roberto De Zerbi, c'est que lui qui est un passionné et comme je lui disais, qui est un on peut pas lui enlever cette détermination qu'il a avec ses défauts et ses qualités, mais en fait que les joueurs ne la transmettent pas et ne la retranspose pas sur le terrain, c'est qu'il y a quand même peut-être une fracture ou un souci entre lui et son vestiaire. Il dit qu'il a rencontré 7 à 8 joueurs hier qu'il le suit.
C'est peut-être pas faire.
Oui, mais bon, c'est très rare qu'un joueur dise à son coach non, je te suis plus.
Il sait pas faire.
Flo, sauf à ce que la traduction ne soit pas exacte, mais moi, la chose la plus terrible. La chose la plus terrible que tu rapportes là, c'est quand il dit je suis désarmé, je ne sais pas quoi faire.
Ce sentiment d'impuissance. Oui.
Ce sentiment d'impuissance, c'est quand même pour l'avenir. C'est pas très réjouissant, me semble-t-il.
À tel point, capitaine, qu'à un moment donné, il dit je suis pas sûr de vraiment parler aux joueurs. Il y a des moments où il vaut mieux se taire.
Tu te rends compte?
Et donc, il attend une réaction d'orgueil de ses troupes sans lui, avant Paris FC, avoir les mots et avoir la solution.
On sait avec qui il s'est entretenu ou pas, Flo, d'ailleurs?
Avec les leaders.
Okay.
Principalement. Et les leaders, ils sont connus. Il y a Rouli qui jouera demain, parce que une autre question, une autre info, c'était que lui ne remet pas encore en cause Geronimo Rouli, pourtant qui depuis quelques semaines est en difficulté. Donc les leaders, Balerdi, avec qui parfois il y a des frictions, évidemment. Pierre-Emile Højbjerg qui fait pas une saison très très régulière. Aubameyang a son poids dans le vestiaire. Il y a quand même assez de leaders normalement pour qu'il y ait ce lien. Avec un entraîneur qui lui aussi prend les choses à cœur.
Le problème, Flo, c'est que les leaders que tu viens de citer, ils sont tous en difficulté. Comme n'importe quel leader, parce qu'on a aussi été avec Steve et Jean-Michel dans un vestiaire, t'as beau être un des leaders, un des relais de l'entraîneur, le problème, c'est que si toi, t'es en difficulté, t'as aucun impact sur le groupe et sur les joueurs. Parce que tu te concentres déjà sur tes performances.
Sur ta performance.
Ah ben oui, tu vas pas donner des leçons si. Et imagine Balerdi.
Tu cherches à devenir Balerdi, crédible.
Si Balerdi est leader.
Balerdi, capitaine. Non mais franchement, tu crois qu'il va donner des leçons aux
joueurs?
Oui, mais
on peut même citer Pierre-Emile Højbjerg.
Pareil, bien sûr.
Effectivement, parfois surjoue dans ne serait-ce que son.
Ouais, ce truc-là, ouais.
Non mais dans son langage corporel, à faire des signes de partout, ça on en parle depuis très longtemps sur RMC. Aubameyang en ce moment, est-ce qu'il va aller? Lui qui a souvent un rôle de grand frère, par exemple, Aubameyang. Aubameyang, il est en grande difficulté depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que l'OM est aussi responsable de l'avoir trop fait jouer ces derniers temps, et c'est l'un des dégâts collatéraux du cas Robinho Vaz, parce que si Robinho Vaz n'avait pas été un peu mis en retrait, bah peut-être que Aubameyang aurait moins enchaîné, et là il est en train d'en payer les conséquences très clairement. Donc Aubameyang, qui est un peu le grand frère de certains joueurs, bah oui, comme tu le dis Jérôme, lui qui est en difficulté, il met de côté ce rôle de conseiller, de protecteur, et on le sent même sur le terrain qu'on n'a pas le Aubameyang ne serait-ce que du début de saison, hein, parce qu'il a fait de bons matchs quand même cette saison.
Flo, d'ailleurs, je rebondis tout de suite parce qu'il y a les info RMC Sport concernant le mercato marseillais aujourd'hui. Donc quelques jours après la vente de Robinho Vaz, cette fois c'est Daryl Bacola qui pourrait être vendu dans les prochaines heures.
Oui, à Sassuolo, on parle d'un transfert autour de 10 millions d'euros. Donc ça reste une belle somme quand même pour un joueur qui a très peu joué, hein, qui a presque disparu depuis sa titularisation.
Ça fait 35 millions d'euros pour les deux jeunes.
Ouais. Voilà. Oui. Bon, il y avait plus trop de doutes, puisqu'on rappelle que Daryl Bacola, l'OM lui avait fait une prolongation de contrat. Son entourage n'a pas répondu. Ça a été interprété très clairement du côté de l'OM comme une volonté de ne pas prolonger, que en gros les discussions étaient rompues, et donc le discours c'était tu nous ramènes un club et si on se met d'accord tu pars. Il y a Ulysse Garcia qui va être prêté également.
Le bordel.
Il y a encore du côté de Sassuolo.
Si on
se concentre et on se détache un petit peu du fiasco de mercredi, le fait d'alléger un peu l'effectif et de trouver des solutions à des joueurs qui étaient mis au placard. Neil Mopay est parti à Séville. Il y a eu beaucoup de solutions et de contrats qui ont été rompus. Donc
Flo, il y a un cas intéressant quand même, et c'est Arthur Vermeeren, hein, parce que là aussi, lui, il est complètement écarté, alors qu'à un moment, c'était devenu un joueur important et un cador du milieu de terrain. Est-ce que lui, il a une chance de quitter l'OM avant la fin du mercato?
C'est possible. Il y a un intérêt de Galatasaray. Ce serait très surprenant. Enfin, si on prend les trois dernières semaines, non, mais si on prend l'ensemble de la saison, oui, parce que on aura encore un exemple d'un joueur qui a été cité comme peut-être un futur titulaire indiscutable s'il fait ce genre de performance. Ça, c'est Roberto De Zerbi qui le disait, et puis tout d'un coup il disparaît des radars. Donc quand on a un Roberto De Zerbi qui pointe du doigt une certaine instabilité et des mouvements trop importants qui empêchent l'équipe et les joueurs de progresser et d'avoir ce vécu commun, on peut aussi lui le pointer du doigt. Ouais. Quand il dit que Mopay, c'est mon fils, ensuite il disparaît. Il dit que Rabiot, on ne pourra jamais s'en séparer. Enfin, les exemples sont nombreux, et peut-être que ce double discours, parfois, à petit feu, il fait du mal aux vestiaires dans les relations avec les
effectifs. Mais Flo, même dans les analyses que nous on peut avoir. Alors après, je dis pas que ils font attention à ce que moi je vais dire, ce que Jean-Michel va dire, que Steve, ce que Duga, quoi que.
Vous êtes très écoutés.
Mais n'empêche que c'est pour ça que on est aujourd'hui un peu tous sur la même ligne sur Roberto De Zerbi. C'est que tout ce que tu viens de dire, il y a tellement de contradictions, tellement de choses mises en avant quand les joueurs. Lui, il a été surprenant. Regarde les hommes de Bacola. Bacola, il a été titulaire en Ligue des Champions. Personne ne l'attendait. Ouais. Et là, à l'arrivée, il gagne le match contre Newcastle. Bacola, t'as l'impression.
Il fait un bon match, d'ailleurs.
Oui, exactement. Mais surprenant. C'était la pépite, elle est là, elle va exploser. Il nous en parlait comme ça. Et aujourd'hui, une offre de 10 millions, ils vont le sortir. Robinho Vaz, c'est la même chose. Même si, en effet, c'est de l'argent, encore une fois. Je peux comprendre. Mais dans ces cas-là, tiens le même discours. Ouais. Et ne te plains pas sur la stabilité. Bon. On parle de Vermeeren. Vermeeren, t'as l'impression que quand il en parlait en début de saison, c'était Vitinha. Ça allait être bientôt meilleur que Vitinha. Non, mais c'est vrai.
Non, mais bien sûr. Tu peux prendre
l'exemple d'autres joueurs. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que il y en a ras-le-bol, quoi, de ça. Et j'imagine que là, t'imagines qu'avec donc ce fiasco, ils ont recruté Timber et Noaneri, d'accord. Mais les joueurs là. Mais qui va jouer, combien de fois ils vont jouer?
Ah, mais il y a moins de matchs, hein, donc il y a du monde à faire jouer, t'as raison.
C'est terrible.
La Coupe de France et le championnat, ça va aller vite.
Franchement, même si c'est de très bons joueurs.
Grand merci à Florent Germain pour toutes les infos, pour le travail autour de la conférence de presse. Merci Flo. Tout ça, c'est à retrouver sur rmcsport.fr et on lance la 20e journée de Ligue 1 dans le multiplex dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.